Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de 4 émissions relatant un point d'actualité sur les relations entre communautés juives et protestantes depuis Luther et notamment, bien sûr, durant la période tragique du XXe siècle. Un thème qui fait suite au rassemblement du 4 juin dernier au Musée du Désert à l'occasion de la remise au grand rabbin de France, Haïm Korsia, d'un bas-relief en bronze. Cette œuvre, le Chauffar, de l'artiste Jip Winchgarden, tire son origine d'une peinture à l'huile inspirée du texte biblique de Proverbes 24, 11 à 12, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas, et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Une proclamation en faveur du peuple juif a été prononcée au nom de tous ceux qui s'identifient avec cette démarche de mémoire, que ce soit individuellement ou en tant que communauté chrétienne. Je cite. Ces versets de la Bible constituent un avertissement solennel qui résonne encore d'un passé proche que l'histoire a nommé la Shoah et qui a révélé nos sérieux manquements aux uns et aux autres envers le peuple juif. Nous, chrétiens, croyons que cette parole est aussi une invitation à apprendre du passé pour mieux appréhender le futur. Elle nous encourage à nous retourner, regarder, écouter, étudier et tirer les nécessaires leçons de cette douloureuse histoire. Cette manifestation fraternelle organisée par les églises protestantes évangéliques avaient pour comité directeur J.P. et Philippe Combes, Corinne et Jean-Louis Lafitte de l'association Top Mission de Strasbourg, Michel Marvan, pasteur de l'église baptiste du Tabernacle, et Joël Trefcon pour l'association Elim. Introduit par Denis Carbonnier, président du Musée du Désert, y participèrent, outre l'artiste et le grand rabbin de France, le pasteur Étienne Lermenot, ancien président du Conseil national des Églises évangéliques de France, mais également Patrick Cabanel, dont la présentation historique a déjà été diffusée sur nos ondes, et le pasteur François Claveroli, au nom de la Fédération protestante de France. Nous consacrerons 2 émissions à la rediffusion de ces interventions, agrémentées de l'accompagnement musical de Color Bach et des chants de Corinne Lafitte. Paul Valéry disait « La mémoire est l'avenir du passé ». Il peut être utile de rappeler que déjà en 2017, pour la commémoration des 500 ans d'existence du protestantisme, placée sous le signe d'une fraternité interreligieuse vécue, la Fédération protestante de France avait publié une déclaration du protestantisme au judaïsme intitulée « Cette mémoire qui engage ». En voici quelques extraits, je cite. La Fédération protestante de France se sait avant tout engagée par les acquis du processus de dialogue et de travail théologique qui a mis en évidence le lien particulier et indissoluble entre l'Église et Israël. En effet, la tragédie de la Shoah a réveillé les consciences et engagé les Églises dans un processus de révision de leur rapport au judaïsme. De nombreuses déclarations ont énoncé des principes décisifs, renouvelant en profondeur la nature des relations entre l'Église et le judaïsme. Cette déclaration affirmait la co-responsabilité des chrétiens, par omission ou par silence, dans la tragédie de la Shoah et condamnait fermement l'antisémitisme. Je cite. La Fédération protestante de France condamne l'antisémitisme sous toutes ses formes, comme cela a déjà été demandé lors de sa fondation en 1948 par le Conseil œcuménique des Églises. L'antisémitisme, quelles que soient ses origines, doit être dénoncé comme une attitude absolument inconciliable avec la foi chrétienne. Il est un péché à la fois contre Dieu et contre l'homme. La Fédération protestante de France est particulièrement interpellée par l'antisémitisme qui s'exprime dans notre pays ainsi que par le sentiment d'insécurité que connaît la communauté juive en France. Elle reste vigilante afin que soit appliquée la liberté religieuse que garantit le principe de la laïcité en France à tous les citoyens de la République. Elle ne conçoit pas la France sans la présence de l'apport du judaïsme. La Fédération protestante de France est consciente du fait que le renoncement à un enseignement teinté d'antijudaïsme et de mépris, reconnu par la COE à New Delhi en 1961, n'est aujourd'hui pas pleinement reçu. Trop nombreux sont ceux qui, sans contester la judéité de Jésus, ni l'inextricable lien entre l'élection d'Israël et l'histoire du salut, continuent à véhiculer une image fossilisée du judaïsme. L'important travail théologique mené au sein du protestantisme sur sa perception du judaïsme, tout comme le chemin parcouru au fil des rencontres judéo-chrétiennes, a permis de passer à une meilleure connaissance mutuelle. Il n'a en revanche pas encore suffisamment permis d'extirper des habitudes langagières les propos dommageables, voire méprisants. Un important travail sur le langage demeure à réaliser pour intégrer cette évolution dans l'enseignement, la prédication, la catéchèse et la liturgie. Notons par ailleurs que dans son ouvrage de 2018, « Le monothéisme sans Dieu », François Racheline, vice-président depuis 2020 de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, précisait la notion d'alliance entre Dieu et Israël. Citation biblique du Deutéronome à l'appui. Le peuple d'Israël est consacré à la volonté divine. Je cite « L'Éternel ton Dieu a choisi en toi ce qui est adéquat à sa volonté. Il t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Cette alliance réciproque n'est pas donc inconditionnelle et implique des devoirs. Je cite « Si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promises avec serment à tes ancêtres. Tu as un rôle particulier, car descendant d'Abraham, tu as refusé l'idolâtrie. Je cite toujours, efforcez-vous d'être différent. Tu n'es pas désigné parce que tu es supérieur, mais pour accomplir une tâche. » L'alliance n'est donc pas une donnée, mais un appel. L'homme biblique dialogue avec Elohim. « Je suis un élu de mon Elohim, que je choisis en même temps qu'il me choisit. Cela me condamne à rechercher en permanence ce qui en moi refuse tout arrêt, toute fixation sur une quelconque idée ou forme, une fois pour toutes définie, ce qu'on appelle l'idolâtrie. » Deutéronome 28 énumère d'ailleurs les catastrophes qui surviendront si Israël ne respecte pas l'Alliance. Je cite « L'Éternel te ramènera par bateau en Égypte, par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. » Mais alors, qu'est-ce donc en pratique que cette mémoire qui engage, proclamée dès 2017 ? Roland Poupin, président de la Commission des relations avec le judaïsme de la Fédération protestante de France, en précisait alors quelques éléments. Je cite « L'avenir n'advient que parce que notre mémoire reçoit du passé. Notre avenir, forcément commun, car il n'y a qu'un monde partagé, se fonde sur notre relecture mémorielle d'un passé qui lui-même, en soi, n'existe plus que par la relecture que nous en faisons. Relire, et si possible ensemble. Relire, nous voilà dans des étymologies du mot « religion » remontant à Cicéron, au 1er siècle avant Jésus-Christ. La religion consiste, selon lui, à une relecture du verbe « religere » en latin. Relecture aujourd'hui dans une cité commune, se particularisant dans des cultes irréductibles les uns aux autres, mais reliés, de toute façon, selon l'autre étymologie de religion, celle de Lactance du 4e siècle après Jésus-Christ, rattachant le mot au verbe « religare », relier. On a là quelque chose d'essentiel, de ce qui ouvre l'avenir auquel la mémoire nous engage. Une relecture d'un passé qui ne cache pas les blessures, mais aussi, et à travers cela, une relecture qui nous relie pour un avenir fraternel. Depuis plusieurs décennies, la Fédération protestante de France, par sa commission pour les relations avec le judaïsme, s'attache à faire avancer les acquis par le dialogue, par des colloques de réflexion et de travail, invitant les églises à penser toujours plus fraternellement leurs relations avec les juifs. Le passé ne nous advient que par les récits par lesquels nous relions les faits à l'aune des relectures que nous en donnons, que nous nous en donnons. C'est déjà ce que fait la Bible hébraïque, les écrits des prophètes d'Israël relus et relus encore, nous reliant à ce qui nous fonde et nous engage toujours à nouveau. La compréhension de Calvin, exprimée dans ce principe « l'Écriture est sa propre interprète », permet de discerner la pérennité de l'alliance de Dieu avec Israël. Celle-ci ne peut pas être abrogée, affirme-t-il, car elle repose sur la fidélité de Dieu dont témoignent les textes, et elle garde, comme loi, sa force de réparation du monde. On pourrait étendre ce travail de guérison des mémoires à tout dialogue interconvictionnel. Personne n'est à considérer comme infidèle à ce qu'il a reçu, mais une mémoire partagée doit pouvoir être tissé pour que l'avenir de notre passé soit un avenir fraternel. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les églises protestantes affirment que l'alliance de Dieu avec Israël n'a jamais été abrogée, au point qu'un pas supplémentaire peut désormais être franchi. Percevoir la non-conversion d'Israël au christianisme comme fidélité à l'alliance dont le garant est Dieu, qui s'y est engagé. Fidélité d'Israël à l'Alliance, au livre biblique qui la dise, à une terre qui la signifie, et cela à travers une histoire qui se déploie et qui fonde notre mémoire, une mémoire partagée, cette mémoire qui engage. Cela nous ramène au sens de ce mot de religion, comme ce qui nous relie, en l'occurrence ce qui nous relie à l'ultime, à ce qu'il y a de plus intime en nous, aux profondeurs spirituelles qui nous fondent les uns et les autres et qui émergent dans la mémoire collective. Citons en conclusion le prophète Ésaïe 54:10. « Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, garant lui-même de l'alliance, affirmant « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. C'est cette mémoire enfouie, mémoire d'éternité, qui nous engage, les uns à l'égard des autres, et ensemble, au-delà de nos différences irréductibles, et même par nos différences irréductibles, à une vocation partagée au cœur du monde. Nous commencerons aujourd'hui par la diffusion de l'allocution du pasteur Étienne Lermeneau, ancien président du Conseil national des Églises évangéliques de France.
Monsieur le grand rabbin, chers amis, je voudrais commencer en vous parlant de l'église que j'ai visitée à cette occasion. Sur le mur du sous-sol, vous avez une parole qui est inscrite de cette église évangélique baptiste de Nice, 13 rue Vernier, qui est la suivante. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ? Et vous avez reconnu là une parole de Mardoché à Hadassa, mieux connue sous le nom d'Esther, qui hésitait évidemment à intervenir auprès de l'empereur parce que c'était risqué, et à qui le cousin Mardoché dit « Si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ?» Alors pourquoi cette parole peut se retrouver sur le mur d'un sous-sol d'une église évangélique baptiste? Eh bien, tout simplement parce que le pasteur Edmond Evrard a permis aux Juifs de sa connaissance de fêter Pourim en 1944, ses deux fils cadets, Louis et Daniel, faisant le guet pour s'assurer que la Gestapo ne débarque pas. En fait, le pasteur Edmond Evrard n'était pas à son coup d'essai. Dès 1930, il recevait à Nice des enfants juifs réfugiés d'Allemagne et d'Autriche qui fuyaient déjà l'antisémitisme de leur pays. En 1940, dès que le gouvernement de Vichy prend des mesures anti-juives en chair, il prend position contre ces mesures et exhorte ses paroissiens à le rejoindre dans l'action. Joignant alors le geste à la parole, il entre dans la résistance dès que les Allemands se retrouvent en zone sud. Et avec sa femme Ida et ses deux fils, ils procurèrent des faux papiers aux Juifs persécutés, mobilisèrent des familles pour les accueillir, hébergèrent des enfants juifs dans des colonies au Mazé-Saint-Voix, pas très loin du Chambon-sur-Lignon, et convoyèrent des enfants juifs de Nice au Chambon-sur-Lignon, puis en Suisse, en lien évidemment avec les réseaux de la résistance. Son biographe écrit qu'entre 1943 et 1944, on pouvait dire que le temple baptiste de Nice était un lieu où chaque personne en danger pouvait être secourue. Et il ajoute que Edmond Evrard n'a pas hésité à se rendre au siège de la Gestapo pour plaider la libération de plusieurs personnes se prévalant de son rôle dans les groupes de réconciliation entre les nations et notamment en direction des Allemands. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Vous ne serez donc pas étonné que le pasteur Edmond Evrard, son épouse Ida, ses fils Louis et Daniel aient été nommés juste parmi les nations par le comité Yad Vashem de France en 1994, soit 13 ans après le décès du père Edmond, du pasteur Edmond Evrard. Alors je vous cite là une histoire certes singulière, mais loin d'être unique, vous l'avez entendu aujourd'hui. Mais que nous apprend-elle ? Elle nous apprend, mes amis, que les États les plus démocratiques peuvent, quand la tempête souffle, promulguer des lois iniques et se rendre activement complices du plus terrible des génocides. Cela nous apprend que des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, peuvent résister par leurs paroles et leurs actions aux projets les plus diaboliques. Et je gage, ce n'a pas toujours été le cas, mais je gage que, en l'occurrence, la foi de ces personnes, la foi en l'Éternel, n'a pas été étrangère à ce courage. Mais que nous apprend encore cette histoire ? Eh bien que l'hydre de l'antisémitisme n'est malheureusement pas définitivement vaincu. 80 ans après les faits mentionnés, nous voyons avec effroi ressurgir l'antisémitisme dans des propos politiques et des lâchetés judiciaires. dans des profanations diaboliques et du mépris ordinaire. En introduction des actes du colloque antisémitisme, il est temps de réagir. Organisé le 5 octobre 2018 par le CNEF, l'historien et sociologue du protestantisme évangélique Sébastien Fatt s'alarmait en disant « Aujourd'hui, un lieu de présence juive ou un individu juif a environ 46 fois plus de probabilité de se faire insulter ou attaquer qu'un lieu de présence ou un individu chrétien. Et un lieu de présence juive ou un individu juif a environ 40 fois plus de probabilité de se faire insulter ou attaquer qu'un lieu de présence ou un individu musulman. » Ces données calculées sur la base des chiffres 2019 du ministère de l'Intérieur ne relèvent pas d'une impression, je cite toujours, d'une émotion ou d'un a priori idéologique, elles dessinent une réalité factuelle. Et le CRIF, au début de cette année, signale qu'on a recensé 436 actes antisémites en 2022, mais on ne parle là que de ce qui a été signalé, évidemment. 53% de ces actes portant atteinte à des personnes et 10% étant des agressions physiques violentes. En outre, toujours selon le CRIF, 61% des actes antireligieux portant atteinte aux personnes sont dirigés contre des juifs. Enfin, et c'est ce qui m'inquiète, et c'est pourquoi j'ai parlé de lâcheté judiciaire, la réponse pénale apportée aux agressions physiques antisémites commises de 2015 à 2019 ont été étudiées. Il en ressort que 63% des affaires d'agressions antisémites ont été classées sans suite et que dans seulement 24% des affaires, les agresseurs ont été condamnés. Que nous apprend encore cette histoire des Monts Eva ? Sinon que la saine et sainte discipline du souvenir ne suffit pas à éradiquer le mal tapis dans nos cœurs. Vous savez probablement l'importance qu'a le souvenir dans la pédagogie familiale et religieuse que promeut la Torah. Apprendre, c'est se souvenir du Dieu d'Israël. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Apprendre, c'est n'oublier ni les actes, ni les paroles de ce Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Le verbe, se souvenir dans l'original, dépasse l'idée de garder juste quelque chose en mémoire pour parler d'accepter de tout cœur de celui dont on se souvient. Cette acceptation est toujours aussi importante aujourd'hui puisque le Seigneur dont il est question, l'Éternel, est aussi vivant et agissant aujourd'hui qu'il l'a été dans le passé. Toutefois, cette insistance de la Torah sur le souvenir dit quelque chose en creux sur notre formidable capacité à oublier. Vous le savez, nous réécrivons la petite histoire et parfois la grande pour mieux nous exonérer de nos méfaits et de nos lâchetés, ou pire, pour les justifier. Pour le dire autrement, cultiver le souvenir de la Shoah est absolument nécessaire. Mais si j'emprunte cette formule aux mathématiques, mais pas totalement suffisant pour nous préserver d'une tragique rechute. Et nous, chrétiens ici rassemblés, ne devrions jamais oublier que nous avons été largement coupables d'avoir nourri cette haine anti-juive dans l'histoire ancienne et que nous sommes demeurés trop longtemps complices de ses conséquences par notre silence dans l'histoire récente. Il y a eu certes des Évrards, des Trocmés, des Bugner, mais il y a eu aussi beaucoup qui ont été silencieux. Nous ne pouvons, mes chers amis, de fait rester indifférents à la nouvelle montée de l'antisémitisme à laquelle nous assistons sans trahir la foi qui nous anime. D'abord parce que l'impératif biblique de l'amour du prochain nous invite à prendre la défense de tous ceux qui sont objets de haine. Ensuite, parce qu'en disciples de Jésus, nous avons une dette à l'égard des Israélites selon ce que notre maître a dit. Vous vous souvenez, la femme samaritaine, le salut vient du peuple juif. Alors, mes amis, au souvenir, il faut ajouter la solidarité concrète, comme ont su le faire d'illustres prédécesseurs. Et tous les croyants, connus et inconnus, dont nous a parlé Patrick Cabanel, dont on n'a parfois pas les noms, qui ont œuvré dans ce sens. Je vous rappelle qu'ils ont œuvré dans un temps qui était beaucoup plus risqué que le nôtre. Cette solidarité, nous l'avons manifestée aujourd'hui par un geste symbolique, en offrant au représentant le plus éminent de la communauté juive en France une œuvre qui commémore l'indicible. Mais ce symbole ne gardera toute sa force que s'il est accompagné de témoignages fidèles de respect et de soutien au peuple juif, ici et ailleurs. Chers amis, à l'heure où disparaissent les uns après les autres les survivants de la Shoah, il nous faut impérativement tirer les leçons de cette histoire tragique. Les réseaux sociaux, par l'absence de vis-à-vis physique, la brièveté des messages et leur instantanéité amplifient la violence des réactions et donc les haines d'une façon formidable. Et je peux vous assurer, je parle en responsable des milieux évangéliques, à ma honte, beaucoup d'évangéliques. Il s'y répand sur ces réseaux un antisémitisme inquiétant, où tel journaliste, tel philosophe, tel auteur n'est plus contré en fonction de ses arguments, mais de sa judaïté supposée ou connue. Mes amis, si nous ne réagissons pas, nos contemporains s'habitueront à cette rhétorique nauséabonde et y verront un exutoire commode à leurs échecs et leurs rancœurs. J'appelle nos communautés protestantes, évangéliques ou luthéro-réformées et leurs pasteurs à combattre l'antisémitisme d'où qu'il vienne avec la plus grande fermeté. Souvenons-nous que la violence... Souvenons-nous que la violence et les meurtres prennent naissance dans les cœurs et empruntent la voie des paroles proférées avant le passage à l'acte. Opposons sans faiblir à la haine qui se répand l'amour de Dieu, qui certes ne supporte pas le péché, mais qui veut sauver le pécheur. J'appelle nos lieux de formation des ministres du culte, instituts bibliques et facultés de théologie à rappeler inlassablement que sans Ancien Testament, il n'y en aurait pas de nouveau. Que sans peuple d'Israël, il n'y aurait pas de Messie. Et sans loi mosaïque et judaïsme, il n'y aurait pas de christianisme. Autrement dit, la foi chrétienne s'enracine dans l'histoire d'Israël. J'appelle tous les chrétiens à dénoncer les actes et les pensées antisémites en toute occasion et à se rapprocher de la communauté juive pour lui témoigner amitié et reconnaissance. Et enfin, je nous rappelle à tous ces paroles du prophète Ésaïe, dans lesquelles le Seigneur affirme, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Je vous remercie.
Alliance Plus.